Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
La mère et l'enfant n'ont pas encore été retrouvés. Il n'est cependant pas à exclure qu'elles aient pu quitter le territoire national.
Le procureur d'Épinal, ce midi, sur l'affaire Mia, après l'arrestation de quatre de ses kidnappeurs que la mère avait sollicités par Internet. Strasbourg ne financera pas la future mosquée, l'association turque renonce à sa demande de subvention. Des réouvertures à la mi-mai, Emmanuel Macron confirme l'objectif, mais sans promesse ferme. Pour les vaccins, le succès de l'ARN messager excite tous les laboratoires dans le monde entier. La forte reprise américaine dope les exportations françaises. Et puis nous évoquerons le souvenir de Christophe, le chanteur disparu il y a un an, célébré par la jeune scène française. Le 24 avril, dans 8 jours, sera la journée nationale internationale de commémoration du génocide arménien, une date fondamentale pour les Arméniens du monde entier. Michel Marian signe l'Arménie et les Arméniens en 100 questions. Il sera l'invité d'Europe Midi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On en sait un peu plus sur les ravisseurs de Mia qui ont été interpellés. 4 individus connus des services de renseignement et présentés comme des militants de l'ultra-droite. Mais la petite fille et sa mère demeurent introuvables. Arthur Mbachet, vous êtes à Épinal où le procureur vient de s'exprimer.
Oui, la petite fille et sa mère sont introuvables. Et il y a même une demande d'entraide pénale internationale. Les enquêteurs craignent que la mère ait fui à l'étranger avec la petite Mia. Les enquêteurs qui n'ont plus aucun doute sur le fait que c'est elle, la mère, qui a contacté des kidnappeurs, qui a commandité l'enlèvement, vient de dire Nicolas Heitz, le procureur d'Épinal.
Lola Montemaggi les sollicitait, donc la maman, via Internet pour récupérer sa fille dont elle s'estimait injustement séparée dans le but de partir à l'étranger. L'opération avait été préparée conjointement et de façon minutieuse et précise. 3 des gardés à vue revendiquaient cette action qu'ils qualifiaient, je cite, d'extraction et d'exfiltration. Le premier, un homme de 58 ans, estimait avoir permis à une petite fille de retrouver sa mère en agissant à la Arsène Lupin.
Voilà, à la Arsène Lupin. Il y a donc 4 hommes en garde à vue, dont les 3 kidnappeurs de mardi matin. La plaque d'immatriculation d'une de leurs voitures a été relevée par un témoin ici dans les Vosges. Or, cette plaque est enregistrée dans les bases des services de renseignement, la DGSI. Il faisait même l'objet d'une enquête du parquet national antiterroriste. C'est comme ça qu'ils ont été logés, repérés et donc arrêtés. Chez l'un d'eux a été retrouvé le script, le texte à dire à la grand-mère de Mia pour obtenir sa confiance en se faisant passer, on le sait, pour des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et donc repartir sans violence avec l'enfant.
Arthur Mbachet en direct d'Épinal pour Europe 1. Autre nouvelle de la matinée, ce rebondissement dans l'affaire de la mosquée de Strasbourg. Elle ne sera pas subventionnée par la ville. Miligorus, l'association d'origine turque qui porte le projet, a décidé d'elle-même de renoncer à la subvention municipale qui avait provoqué une épreuve de force entre la mairie écolo et le gouvernement. Mélina Fachin, vous êtes à Strasbourg.
Oui, la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, l'a annoncé. Elle ne versera pas les 2,5 millions d'euros de subventions prévues à la mosquée Eyüp Sultan. Et ce n'est pas elle qui a changé d'avis, dit-elle, mais l'association Miligorus à la tête du lieu de culte.
Ce qui a le plus changé, c'est en fait le refus des collectivités région Grand Est et collectivités européennes d'Alsace de financer le projet. De fait, ça déséquilibrait le plan de financement. Et donc, l'association m'a adressé hier un courrier me disant qu'à ce stade, ils retiraient leur demande de subvention.
On ne sait pas encore si cela remet en cause la suite des travaux de la mosquée. Miligorus va certainement devoir trouver d'autres financements. En attendant, cela enlève une épine du pied de Jeanne Barzéguian qui regrette toute cette polémique, les critiques du gouvernement, même si elle n'estime n'avoir fait aucune erreur politique. Pour éviter toutefois de nouveaux dossiers du genre, elle veut retravailler d'ici la fin de l'année les critères d'attribution des subventions de la ville.
Mélina Fachin à Strasbourg. La crise sanitaire, alors que l'épidémie se stabilise à un niveau élevé, 30 000 malades du Covid dans les hôpitaux, 5 900 en réanimation et encore 300 morts hier. Emmanuel Macron maintient l'objectif de faire redémarrer quelques activités à la mi-mai. Une perspective, Jean-Rémy Baudeau, mais pas de promesse ferme.
Patrick, surtout ne pas trop s'avancer, ne pas être pris au piège de promesses impossibles à tenir quand en réalité c'est le virus qui dicte le calendrier. Mais tout de même, un contexte. Hier devant les maires, Emmanuel Macron a précisé que les hospitalisations devraient encore progresser jusqu'à la fin du mois. La tension restera ainsi très forte. Mais ça n'empêche pas l'exécutif d'esquisser des dates, je vous les donner dans l'ordre. Les écoles et les crèches devraient bien reprendre au 26 avril, une semaine avant les collèges et les lycées. L'étape suivante, Emmanuel Macron en a parlé aux maires, il a maintenu cet objectif du 15 mai pour les terrasses et les musées, une échéance qui pourrait aussi concerner les commerces. L'exécutif laisse entendre qu'il pourrait y avoir en fait des réouvertures différenciées selon les territoires. La suite, ce sera un calendrier de réouverture par étape toutes les trois semaines. Un calendrier qui sera fonction du déploiement de la stratégie vaccinale, précise ce matin l'Élysée. On notera que ce sont effectivement donc les maires rencontrés par le président qui ont fait fuiter ce calendrier, une version officieuse des plans du président, car pour la parole officielle, il faudra encore attendre un peu. Là encore, Emmanuel Macron entretient le flou pour ne pas trop s'engager. Son entourage laisse entendre qu'il s'adressera aux Français d'ici à la fin du mois.
Côté vaccin, la campagne a pris son envol. 472 000 injections réalisées hier. Près de 12 millions de personnes ont maintenant reçu au moins une première dose. Mais vaccination suspendue pendant 3 jours à Berck, dans le Pas-de-Calais, à cause d'une attaque informatique. Pas de rendez-vous déprogrammé. Les créneaux n'avaient pas été ouverts. Mais la fondation Opal, qui gère une quinzaine d'établissements dans les Hauts-de-France, prend le temps de faire le bilan de cette intrusion dans son système. Nouvelle cyberattaque visant le secteur hospitalier. Début de campagne. Qui a consacré la suprématie des vaccins à ARN messager, les Pfizer et Moderna. Il est probable que l'Europe ne passe pas de nouvelles commandes d'AstraZeneca, a d'ailleurs indiqué ce matin la ministre Pannier-Runacher. Dans le monde entier, chez la plupart des labos, c'est maintenant la course à l'ARN, les projets et les essais se multiplient, Victor Delande.
Oui, les succès de Pfizer et Moderna ont donné des idées à leurs concurrents. Le prochain, ce sera le laboratoire allemand CureVac, avec un vaccin disponible dès le mois de mai. Et la liste est loin d'être terminée. Pas moins d'une douzaine d'autres labos sont dans les starting blocks. Le français Sanofi a lancé des essais de clinique phase 1 et 2 avec une biotech américaine en mars dernier. Le vaccin pourrait être disponible courant 2022. Des essais également lancés par des labos chinois, japonais ou indiens. En fait, la réussite de Pfizer et Moderna a totalement dopé la recherche sur les vaccins ARN messagers, selon Bernard Verrier, directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie et de chimie des protéines.
Ça libère vraiment à la fois les innovations, les budgets, les finances. Et il y a un mouvement de fond qui se déclenche sur la vaccination ARN et ça va débloquer d'autres pathologies, les vaccins contre le sida, les vaccins contre le cancer. C'est clair que ça suscite énormément d'enthousiasme.
Et cette technologie n'en est qu'à ses débuts, selon les scientifiques. Rappelez-vous, en décembre dernier, il fallait stocker les vaccins Pfizer dans des supercongélateurs à moins 80 degrés. On sait maintenant les conserver à moins 20 et dans quelques mois, on devrait pouvoir les garder à température ambiante. Et surtout, plus de labos pour développer des vaccins ARN messagers. Ça veut dire aussi beaucoup plus de doses disponibles dans les années à venir.
Avec des injections appelées à se renouveler, le patron de Pfizer évoque ce matin dans Les Échos des vaccinations régulières comme celle de la grippe.
Oui, comme cela avait déjà été évoqué par des spécialistes de la vaccination, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, confirme qu'il faudra sans doute une troisième dose entre 6 mois à un an après la première injection et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année. Mais tout cela doit être confirmé par des études sur la durée de l'immunité parce que pour le moment, on n'a que 6 mois de recul sur les premières personnes vaccinées avec le sérum Pfizer.
Merci Victor Delande. Nouveau coup de froid entre les magistrats et le gouvernement. À l'instant, le Conseil supérieur de la magistrature indique qu'il refuse d'enquêter sur d'éventuels manquements déontologiques du vice-procureur du parquet national financier, Patrice Amar. Comme le lui avait pourtant demandé le Premier ministre Jean Castex, le Conseil supérieur estime que le Premier ministre ne lui dénonce pas de faits motivant des poursuites disciplinaires et qu'il n'entre donc pas dans ses attributions d'investiguer sur ce magistrat.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite dans un instant, la reprise spectaculaire de l'économie américaine qui profite déjà à la France et les 100 ans de la vache qui rit.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La bourse de New York a encore battu des records hier soir après une série d'indicateurs inespérés. Un chômage au plus bas depuis le début de la crise et des ventes au détail en hausse de près de 10% en mars. Les États-Unis voient les prémices d'un mini-boom économique, une forte reprise qui profite déjà à nos exportations, d'abord celle des vins et spiritueux avec les bars et restaurants qui commencent à rouvrir. Louis Derangère, lui, dirige une société qui fournit des machines de conditionnement à l'industrie américaine.
Depuis début janvier, on a énormément de demandes de la part des États-Unis On le voit au travers des projets. Les projets sont beaucoup plus concrets et même nos interlocuteurs, ils sont très positifs. On voit que avec l'arrivée des vaccins et peut-être des plans de relance qui se profilent, ils veulent croire en la reprise de l'économie mondiale et donc ils veulent participer. Ils veulent que leur industrie soit prête à repartir pour pouvoir produire et livrer dans le monde entier. Ils ont besoin de s'équiper, surtout après une période où il y a eu peu d'investissements pendant l'année 2020 parce que la croissance était incertaine, la situation mondiale était incertaine. Donc ils investissent massivement et ils se tournent vers les entreprises américaines, bien sûr, mais aussi européennes pour avoir ces technologies performantes et de qualité.
Le directeur de Mum Packaging, propos recueilli par Carole Ferry. Le journaliste Darius Rochebain, mis hors de cause par une enquête suisse. L'enquête ne permet pas de conclure à des actes relevant de harcèlement ou d'une infraction pénale, dit un communiqué de la radio-télévision suisse. Darius Rochebain avait été suspendu d'antenne par LCI fin octobre après les révélations du quotidien Le Temps pour des paroles et des actes déplacés lorsqu'il officiait dans son pays. Un chef d'orchestre star annoncé à l'Opéra de Paris, Gustavo Dudamel est nommé directeur musical. Il prendra ses fonctions en août pour un mandat de 6 ans, tout en continuant de diriger l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Vénézuélien de 40 ans, Dudamel est devenu le plus prestigieux maestro de sa génération. Il sera l'invité d'Isabelle Millet tout à l'heure, ce soir dans Europe Soir. Christophe, le chanteur Christophe, est mort il y a tout juste un an. Il a été l'un des grands disparus du premier confinement. Ses chansons ont soudain envahi nos rues. Christophe, repris, célébré depuis par les jeunes chanteurs de la nouvelle scène, Angèle Châtelier.
Oui, beaucoup d'artistes que j'ai pu rencontrer m'ont parlé de Christophe, comme quoi sa musique les influence considérablement. Et ça, le chanteur Hervé, révélation masculine aux dernières victoires de la musique, m'explique pourquoi Christophe était un véritable technicien du son.
Il y a un truc chez Christophe qui est hyper rare, c'est le populaire le plus élégant, quoi. Moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. C'est un amoureux du son. Le son, il disait toujours ça. Il écoutait vraiment absolument tout le temps. Les derniers trucs qui sortaient. Et je pense que c'est ça qui l'a fait rester dans l'air du temps. Il est plus vivant que jamais parce que le son de synthé, il est noble. Il sera toujours noble.
Ils l'ont tant cherché. La nuit a te remplacé.
Christophe influence tant les artistes de la nouvelle scène qu'il se réapproprie ses plus grands tubes. Écoutez par exemple le groupe d'électropop Therapy Taxi et la reprise d'Aline. Et
j'ai crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Il y a aussi Johan Papa Constantino qui à 29 ans cumule des millions d'écoutes sur sa reprise plus dansante, disons-le, des mots bleus. Enfin, Patrick prouve que Christophe a toujours été curieux de tout ce qu'il se passe musicalement. Il y a encore 2 ans, il s'entourait des nouveaux artistes à succès. Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton, Juliette Armanet ou encore Jeanne Haddad sur sa chanson La petite fille du troisième.
Je vois tout, j'entends tout.
Merci beaucoup Angèle Châtelier. Restez avec nous, on va célébrer un autre anniversaire. Le 16 avril 1921, Léon Bell déposait au tribunal de Lons-le-Saunier dans le Jura le nom d'un fromage fondu en portions dont le destin allait être fabuleux, la vache qui rit, qui a donc 100 ans aujourd'hui, centenaire fêté à Lons-le-Saunier, où se trouve toujours l'usine mère de la marque, vendue dans 136 pays. La vache arbore toujours des boucles d'oreilles en forme de boîte à fromage à son effigie, dessinée à l'époque par Benjamin Rabier, qui était un camarade de guerre de Léon Bell. Donc presque rien n'a changé en 100 ans, assis quand même la publicité.
Si mesdames nous donnent du bon fromage, qu'on nous vend partout en tout petit morceau, oh oh, c'est la vache qui rit, c'est la vache qui rit, pour la plus grande joie de tout le pays.
Publicité radio de la vache qui rit du début des années 30.
Quelle Madeleine de Proust, la vache qui rit. C'était le goûter, hein. C'était le goûter, la vache qui rit.
Elle en rit encore. Le temps, Anissa Dadi, le ciel se couvre.
Oui, cet après-midi, Patrick, après une matinée très ensoleillée, en effet, sur la moitié nord, les nuages sont en train d'arriver. Donc, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, en passant par la région parisienne, on va avoir une après-midi qui sera partagée entre nuages et quelques éclaircies. Le long de la façade atlantique, c'est toujours là, hein, qui fait le plus beau, avec un soleil qui résiste bien. En fait, c'est sur le grand quart sud-est que le temps sera le plus agité. du Massif central jusqu'aux Alpes, en passant par la vallée du Rhône, la Provence et jusqu'en Corse, et bien dans toutes ces régions. Cet après-midi, pensez à votre parapluie, il y aura des averses. Elles seront assez fréquentes. Il va neiger sur les reliefs à partir de 800 mètres. Et sur la Côte d'Azur, nous attendons même quelques coups de tonnerre cet après-midi. Les températures, elles sont stationnaires, ça ne bouge pas, toujours en dessous des normales de saison, avec 9 degrés à Clermont-Ferrand, 10 à Belfort, 12 à Paris, Lyon et Limoges, 13 pour Brest, 15 à Nice et Bordeaux et 17 la maximale pour Ajaccio. Ce week-end, le thermomètre va très légèrement grimper.
Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À l'approche du 24 avril, Michel Marian raconte l'Arménie et les Arméniens. Il est notre invité dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
C'est un peuple dont la majorité des membres vit en dehors de ses frontières, un peuple qui a fondé la première nation chrétienne, dont l'un des monarques gît à Saint-Denis, au milieu des rois de France, un peuple qui a survécu à l'un des trois génocides du XXe siècle et qui s'apprête à célébrer le 24 avril, comme chaque année, date fondamentale pour les Arméniens du monde entier, car c'est d'eux dont il s'agit. Bonjour Michel Marian.
Bonjour Patrick Cohen.
Philosophe et ancien maître de conférences à Sciences Po Paris, vous publiez « L'Arménie et les Arméniens en 100 questions » chez Talendier, et c'est un livre aussi attachant que le pays et le peuple qui en sont l'objet, parce que vous répondez aux questions les plus diverses sur ce qui fait la spécificité arménienne, politique, histoire, art, culture, diaspora. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer. Qu'est-ce qui relie, c'est l'une des questions que vous posez dans votre livre, qu'est-ce qui relie les communautés arméniennes? Qu'est-ce qui fonde cette identité, cette force et cette unité?
Alors, on ne peut pas répondre, me semble-t-il, à votre question dans l'instant, dans le présent. Il faut d'abord dire que ce qui relie les communautés arméniennes, c'est le fait d'avoir été, en partie en tout cas, dispersées depuis plusieurs siècles, plus que plusieurs siècles, une quinzaine de siècles, et d'avoir inventé des modes, des institutions même, leur permettant de rester ensemble d'une certaine façon à travers cet éclatement spatial et cette longue durée. Alors, quelles sont ces inventions? L'invention principale, je le dis parce que c'est la vérité, c'est l'Église. C'est le fait que l'Église arménienne, très rapidement après la disparition du royaume, a pris en charge cette fonction principale de relier des communautés arméniennes qui allaient désormais se retrouver à vivre dans des pays et souvent des empires différents et hostiles les uns avec les autres. Donc elle a pris en charge cette fonction, elle dirait cette mission, et l'un des premiers événements pour illustrer cela, c'est l'invention de l'alphabet. Évidemment, beaucoup de peuples, beaucoup de langues ont vu ont eu des alphabets spécifiques, mais la fonction qui a été assignée à l'alphabet arménien est très particulière. Elle consistait à ce que les textes religieux puissent être lus aussi bien par les Arméniens de l'Empire byzantin que par les Arméniens de l'Empire perse. Donc, très peu de temps après, 25 ans après la destruction du royaume, l'Église arménienne a inventé le moyen de dire non finalement à cette division et de garder le contact. Ça, c'est pour le lointain passé. Vous me direz, il faut peut-être qu'on parle de périodes plus rapprochées aussi.
Oui, mais c'est ce qui fonde aussi cette histoire dont se revendiquent aussi les Arméniens du monde entier aujourd'hui. Alors, on va dire où ils sont, ces Arméniens du monde entier, parce que l'Arménie, c'est un tout petit pays qui est très enclavé, on va en reparler, et une diaspora qui est dispersée, alors pour une part en Russie, à Moscou. La France est un foyer très important, plus de 500 000 Arméniens en France, une partie au Proche-Orient, le Liban évidemment, et un attrait particulier pour la Californie, 200 000 Arméniens à Los Angeles et souvent regroupés autour de quelques communes. Vous racontez aussi cet attrait californien pour les Arméniens. Et donc, avec des liens, un sentiment d'appartenance très fort de tous ces membres dispersés aux quatre coins du monde.
Alors, le sentiment d'appartenance, donc, dont on a parlé de ses bases, il est réactivé à chaque grand événement en particulier chaque grand événement traumatique. Il a été réactivé, bien entendu, et même porté à une échelle inconnue au moment du génocide, mais il a été très fort aussi au moment du séisme de 1988. Qui a ravagé tout le nord de l'Arménie. Et puis, d'une certaine façon, la dernière guerre du Karabakh a aussi ressoudé dans l'inquiétude, pour le moment, dans l'absence d'une vision claire de ce qui peut se passer, a ressoudé ces communautés. Alors, si on doit parler des lieux de dispersion et d'attrait des diasporas, je n'ai rien à redire à ce que vous avez dit, même dans l'ordre.
Que j'ai puisé dans votre livre.
Oui, mais vous avez eu raison de dire quelque chose à quoi on est souvent insensible, alors que c'est très important. Il y a une diaspora, la diaspora la plus importante aujourd'hui, elle est à Moscou. Elle n'est même pas en Californie. Celle de Californie, elle est plus vibrante, elle est plus bling-bling. Je prends l'exemple de Kim Kardashian. Mais la diaspora la plus forte numériquement, c'est la diaspora russe.
Voilà, ça fait partie des questions que vous abordez chapitre après chapitre. Pourquoi Kim Kardashian plaît-elle tant aux Arméniens ? Voilà, il y a des questions comme ça, y compris pourquoi y a-t-il tant de photographes arméniens ? Voilà, il y a toutes ces spécificités-là qui font le prix. Et l'intérêt qu'on peut porter à cette culture arménienne très vivace, Michel Marian.
Je crois que c'était important, même si ça a surpris certains lecteurs, de parler de Kim Kardashian. D'abord parce que c'est une illustration de ce qu'on peut dire sur la Californie, c'est-à-dire là où se sont inventées de nouvelles formes d'art, de culture, et où les Arméniens ont pris leur place. Là, en l'occurrence, la culture des influenceurs. Mais c'est important aussi parce que, et c'est là-dessus que j'insiste dans le chapitre que vous avez cité, sur le fait qu'elle représente un mode de vie qui est à la fois complètement à milieu de cette église arménienne dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque elle est pas du tout d'abord dans l'endogamie.
Non. Hein,
ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par ailleurs, elle a un sens de la famille extrêmement développé, mais c'est une famille nouveau style.
Oui.
C'est-à-dire avec des enfants qui naissent par procréation médicale assistée, avec l'interracial, avec le transsexualisme de son beau-père ou de sa belle-mère. Beaucoup de choses qui pourraient la rendre vénéneuse aux yeux des Arméniens et qui, au contraire, ont marqué son succès parce que tout ça a été apporté symboliquement au renforcement de la mémoire et du lien avec la mère patrie, entre guillemets. Elle a fait tout ça et du coup, les Arméniens de là-bas se sont dit, ben voilà, on peut faire les deux, on peut être patriote et en même temps pas traditionnaliste dans sa vie. C'est quelque chose qui apportait une réponse, je dis pas à tous les Arméniens, mais à une bonne partie de la jeunesse.
Et c'est un sujet de... une source de fierté, en tout cas, d'une certaine façon, pour les Arméniens. Les questions de culture sont importantes, je le disais, la musicalité arménienne, le succès des Arméniens dans les sports de combat. Mais je reviens au sous-titre de votre livre, « Les clés d'une survie ». L'Arménie, aujourd'hui, je le répète, petit pays enclavé de tradition chrétienne dans un proche ou Moyen-Orient, entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est encore dont l'existence est menacée, ou en tout cas dont les membres peuvent se sentir menacés, Michel Marian.
On ne se serait pas dit les choses comme ça il y a encore un an. Il y a un an, on était dans une presque euphorie après la catastrophe qu'avait été le génocide, après l'emprisonnement qu'avait été la soviétisation, après la souffrance qui avait été celle du tremblement de terre. On pensait que l'Arménie commençait à sortir du tunnel. Elle avait vécu sa révolution de velours, et révolution de velours nommée à très juste titre, puisqu'il n'y a pas eu non seulement un mort, mais même un blessé pendant cette prise de pouvoir contre la corruption, contre les anciennes élites. Il y avait aussi une euphorie par rapport à la reconstitution de la diaspora après 100 ans après le génocide, hein, pendant les commémorations de 2015 où était allé notamment François Hollande. Et puis soudain, il y a eu cette guerre qui a rappelé à l'Arménie que cet État auquel elle avait tant aspiré pendant 15 siècles, qu'elle avait obtenu, même sous des formes un peu contenues, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec des frontières pendant la période soviétique, et qu'elle avait pu garder à la sortie de la période soviétique, eh bien cet État, il était peut-être menacé par le conflit avec les deux voisins, Azerbaïdjan et Turquie. Et je pense que c'est exagéré, on l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux géopolitiques qui font que la Russie, à la dernière minute, et l'Occident, sans se montrer, savent mettre une ligne rouge par rapport à une éventuelle destruction de l'Arménie. Néanmoins, il y a maintenant la nécessité d'avoir une vision qui permette à l'Arménie de trouver sa place dans le Caucase.
Et ne pas rester avec le sentiment d'être une citadelle assiégée. Merci beaucoup Michel Marian. Je rappelle le titre de ce livre où on apprend beaucoup, beaucoup de choses et qui est vraiment passionnant. L'Arménie et les Arméniens, les clés d'une survie. C'est en 100 questions et ça paraît chez Talendier. Merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis pour Europe Midi. Dans un instant, le 13h avec Marguerite Lefebvre. Et la semaine prochaine, c'est Rémi Bossaron qui vous accompagnera pour Europe Midi. Bonne journée et bon week-end.